France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Un Français boit en moyenne 11 litres et demi d'alcool pur par an. Bien évidemment, c'est une moyenne, ça varie énormément selon l'âge et le sexe notamment. L'organisme Santé publique France dévoile ce matin une vaste étude sur le sujet dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Bonjour Michel Reynaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'addictologie, président du fonds Action Addiction et fondateur du site Addict Aid. Cette étude, vous l'avez eue entre les mains. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Elle est très vaste, hein. Il y a plein de résultats différents. Quel est le plus marquant selon vous?
Le plus marquant, c'est que 10% des Français consomment 58% de l'alcool vendu. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie de la population française qui consomme beaucoup.
Le problème des très gros buveurs.
Et qui fait le modèle économique de l'alcool en France. Et ça, tant qu'on n'a pas compris, on ne comprend pas pourquoi le lobby alcoolier se bat pour nous mettre chez les hygiénistes buveurs d'eau. C'est pas le problème. 80% des Français boivent de façon modérée à risque très limité. Le problème, c'est les 20%. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué aussi? C'est le fait que depuis 5 ans, la consommation d'alcool en France reste strictement identique, alors qu'elle baissait depuis 30 ans. Ça, c'est le détricotage de la loi Evin, hein, extrêmement habile des 2-3 derniers gouvernements, et de M. Macron, qui était tout à fait à la matière, à l'action derrière.
Alors, attendez, vous dites que la consommation ne baisse plus depuis 5 ans, donc elle stagne, mais est-ce qu'elle est trop importante à vos yeux? Parce que si elle stagne, mais qu'elle est à un très bas niveau,
non,
c'est moins grave.
Non, elle stagne, on est au deuxième niveau européen, et l'Europe est le premier continent consommateur d'alcool. Oui, on a une consommation élevée, avec des dommages encore élevés. Et les dommages, de la même manière que 20% des consommateurs consomment 80% de l'alcool vendu, 20% des consommateurs ont 80% des dommages. C'est-à-dire que ce sont les gros buveurs qui ont essentiellement toutes les maladies, et c'est vraiment exponentiel, proportionnel de façon exponentielle, qui ont les maladies, qui ont les violences, qui ont les agressions, qui ont les accidents de voiture, qui sont... comme tout est multiplié de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'à 0,50 g, on a deux chances d'avoir un accident, enfin le risque est multiplié par deux d'avoir un accident mortel, à 0,80 g par 5, mais à 1,50 g, il est multiplié par 30. C'est du même ordre pour le risque d'avoir une pancréatite ou d'être soumis à une violence ou causeur de violence. C'est les gros buveurs qui sont les plus dangereux. Donc, il faut comprendre que l'essentiel des dommages est fait par une petite population, que cette population fait la richesse du monde de l'alcool, et que à cause de cela, on vit dans un monde où il y a une incitation à boire permanente, à la fois une incitation par les médias, par le marketing, par les réseaux sociaux pour les jeunes, et par une habitude de vie qui fait que on est systématiquement, dès que l'on sort, dès que l'on va quelque part, dès que l'on va chez des amis, il doit y avoir de l'alcool, et il y a d'abord de l'alcool.
J'imagine que vous avez entendu la déclaration du ministre de l'Agriculture il y a quelques semaines, qui a dit « Le vin, ce n'est pas un alcool comme les autres, c'est un produit de bonheur ». Vous avez pensé quoi de cette déclaration ?
Il a dit « c'est un pur bonheur ». Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand on consomme un petit peu de vin de qualité, c'est un pur bonheur, mais c'est à côté un grand malheur. Et ce que l'on peut reprocher au ministre, à la filière alcoolière, au lobby, c'est de ne pas dire que c'est le plus grand malheur français. C'est-à-dire que la majorité des dommages liés à toutes les drogues, quand on fait la somme des souffrances personnelles et des souffrances infligées aux autres, c'est de très loin l'alcool.
Le vin est une drogue?
Le vin est une drogue, oui, le vin accroche comme les autres drogues, il accroche plus que le cannabis.
Vous ne faites pas de distinction entre le vin, la bière ou les alcools forts?
Le cerveau n'en fait pas. En tout cas, la molécule d'alcool est la même. Après, le plaisir subtil, oui, le cerveau fait la différence. Mais ce qui accroche, c'est la molécule d'alcool. Et donc le vin, c'est un grand bonheur, mais c'est aussi un très grand malheur. Et donc on doit avoir toujours en tête que c'est un produit potentiellement dangereux. Et que ce qui est dangereux, alors on sait qu'à 1-2 verres par jour, c'est-à-dire 10, une dizaine de verres par semaine, les risques sont limités. Mais à partir de 3-4 verres, la courbe
3-4 par
devient
jour.
3-4 verres par jour, ou entre 20-30 verres par semaine. Là, la courbe commence à monter. Au-delà de 3-4 verres par jour, ou de consommation de plus de 7-8 verres à une occasion.
On parle de vin, évidemment, on ne parle pas de
vodka. C'est tout alcool, c'est tout alcool.
Tout alcool.
Il y a les mêmes quantités dans un verre de vin, dans un shot de vodka, enfin les mêmes quantités dans un bar. En réalité, on a plutôt tendance à consommer plus que la dose bar. Mais sinon, il y a la même quantité d'alcool. Et au-delà de 2-3 verres en consommation régulière et de 4-5 verres en consommation aiguë, le risque augmente de façon exponentielle. Et donc c'est 10% de Français qui achètent 58% de l'alcool vendu. C'est pour ça que j'insiste, il faut absolument comprendre que la France boit de façon modérée dans son ensemble.
Mais il y a de très gros buveurs et c'est ça qui est problématique.
Il y a de très gros buveurs. Et là on peut agir.
Vous dénoncez la pression du lobby de l'alcool, comment elle se manifeste ?
Le lobby de l'alcool a enlevé tout ce qui était tout ce qui protégeait dans la loi Evin, c'est-à-dire qu'il y a une communication et un marketing que vous voyez dans chacun de vos journaux tout le temps, toutes les semaines, mais beaucoup plus subtil. Ils ont su se saisir en obtenant une dizaine d'années l'autorisation d'aller sur le web. Ils ont envahi les sites et beaucoup plus subtilement les réseaux sociaux. En particulier chez les jeunes, ils savent cibler les jeunes en achetant un certain nombre d'influenceurs. Donc il y a des stratégies envers les jeunes, car ils savent, comme nous, que plus on commence tôt, plus on a de chances de s'accrocher. Et donc un accroché, c'est le gros buveur qu'il faut, puisque si la plupart des gens sont en dessous de 2 verres en France, les 80% sont en dessous de 2 verres, et ceux qui sont à, il en faut 10 à 1 verre pour remplacer le 1 à 10 verres. Donc le gros buveur, le modèle économique est fait sur les buveurs à risque excessif, problématique, et sur les dépendants. Les 8%, c'est les dépendants.
Vous évoquiez les jeunes, c'est tout un pan de cette étude. 40 000 adolescents ont été interrogés pour cette étude, c'est pas rien. Et il y a un résultat moi que je trouve marquant, c'est que 44% d'entre eux déclarent, alors le terme exact c'est une alcoolisation ponctuelle importante, en gros 44% d'entre eux déclarent être ivres une fois par mois. C'est quasiment un adolescent sur deux qui est ivre une fois par mois.
Oui, c'est devenu la norme. Je ne sais pas si vous avez des adolescents, mais quand les adolescents sortent, ils n'imaginent pas une soirée, même quand ils ont 15-16 ans, sans avoir du mauvais whisky, de la mauvaise vodka, de la bière, du Malibu. Donc toute une série, ils sont habitués à consommer très tôt. Et ça, c'est le changement de ces 10 dernières années. Ils ont ciblé les jeunes, et ils ont ciblé les jeunes femmes. Les jeunes femmes ivres sont devenues une norme sociale acceptable.
En mettant des boissons plus sucrées avec des fruits,
en commençant
des choses comme
ça. Voilà, avec un packaging spécial. Par exemple, ils se sont débrouillés pour que ne passe pas à la dernière loi de finances une proposition de prémix qui devait taxer les boissons sucrées à base de vin.
Et ça fait partie justement des préconisations. Vous souhaitez qu'on taxe ce type de boisson et qu'on encadre davantage la pub. On en revient donc à la loi Evin tout à l'heure.
On sait quelles sont les mesures qui marchent. C'est dans le monde entier, on le sait. C'est l'augmentation du prix minimum de l'alcool, ce qui fait diminuer les consommations chez les jeunes et chez les gros buveurs. C'est la taxation de la publicité. C'est la taxation des prémix.
Vous mettiez aussi dans votre tribune 100 millions d'euros pour la prévention aussi.
Ces taxations doivent servir. Ce qui est frappant dans ces chiffres, c'est la différence entre le tabac et l'alcool en France. Le tabac est une politique volontaire, elle marche. En France, il n'y a pas de politique du tout sur l'alcool, ou quasiment pas, et donc les consommations restent élevées.
Merci beaucoup Michel Reynaud. Je rappelle que vous êtes professeur d'addictologie et vous étiez l'invité du 5-7 ce matin.